France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Annexer la bande de Gaza et en faire un paradis pour touristes. Le monde entre surprise et indignation après la proposition du président américain Donald Trump hier soir. Condamnation de la France ce matin par la voix de la porte-parole du gouvernement.
La France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à deux États que nous prônons depuis des années.
Sophie Prima, ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, nous serons à Gaza, nous écouterons les Gazaouis en tous les cas. Dans une minute, nous serons également en Israël, où nous verrons que la classe politique est plutôt unanime pour soutenir ce projet. À suivre encore, l'un des derniers liens entre les Afghanes et l'école qui se coupe. Radio Begum, 16 Démètres, nous serons avec sa fondatrice. Le retour en France de Serge Atlaoui, le Français détenu depuis près de 20 ans en Indonésie. Il a atterri ce matin, nous verrons ce qu'il va devenir. La colère des auto-entrepreneurs, ceux qui font le moins de chiffre d'affaires. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Ils vont désormais payer la TVA.
Et ces auto-entrepreneurs parlent d'une douche froide. Appliquer ces 20% de TVA implique selon eux plus de paperasse et surtout une perte de chiffre d'affaires. Ils regrettent qu'une fois de plus, le gouvernement s'attaque aux plus petits et non aux plus gros patrons.
A tout de suite. Nous serons également à Marseille dans les prochaines minutes où des automobilistes se font dépouiller de leurs pièces détachées presque sous leurs yeux. Les Sables d'Olonne également où les bâtiments publics seront bientôt chauffés par thalassothermie. Et puis Soderbergh, Callas et Tuche au sommaire de la chronique cinéma d'Alexis Demeyer. À 13h30, eau du robinet ou en bouteille, quelle eau faut-il boire? Après les révélations qui se succèdent sur la pollution des eaux en France et en Europe, j'attends vos questions pour nos invités. 0145 24 7000. 13h50, c'est la France. Éric Fotorino du 1 Hebdo et le retard français dans l'intelligence artificielle. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le guitariste Wax demande la pianiste américaine Fiona Apple. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Donald Trump a été promoteur immobilier dans les années 80 aux États-Unis. Mais hier soir, devant un bon feu dans un salon de la Maison-Blanche, c'est bien le président des États-Unis qui a fait ce qu'il appelle une très forte recommandation. Voilà son projet, chasser le 1 800 000 Palestiniens de la bande de Gaza, en prendre le contrôle à long terme et le transformer en Riviera. C'est son mot. À ses côtés, on a vu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se réjouir. Nous verrons dans une minute si lui et les autres dirigeants de la planète prennent Trump au sérieux, tant cette proposition paraît folle. Avant cela, écoutons les réactions en Israël et surtout à Gaza. Gaza ravagée par des mois de guerre, meurtrie par les bombardements israéliens. Plus de 47 000 morts selon les chiffres du Hamas, validés, je le rappelle, par l'ONU. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Les déclarations de Trump sont-elles prises au sérieux par les Gazaouis?
Oui. Ça fait partie maintenant du paysage. Certes, d'un côté, il y a la nécessité de survivre dans les conditions extrêmes, mais de l'autre, depuis ce matin, eh bien, cette annonce est une onde de choc, raconte Noureddine Al-Mansoun. Il est joint au téléphone depuis le centre de l'enclave.
Sur le chemin du marché ce matin, il y avait déjà deux personnes qui parlaient du discours de Trump hier soir.
Il y a donc un mélange de rejet, de réflexion et de crainte dans les premières réactions. Assia fait partie de ceux qui se sont réinstallés à l'extérieur. Elle est en Égypte et elle rejette la logique de Donald Trump.
Il compte rien que la monnaie, le commerce, c'est ça ce qu'il comprend. Il ne voit pas les gens comme étant humains.
À Gaza, les habitants sont farouchement attachés à leur terre, c'est une réalité. Mais cette idée de la réinstallation perturbe l'unité, constate Asma, elle est enseignante installée à Khan Younes.
Pour quitter ici, je ne sais pas, il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas, il y en a beaucoup de gens qui le veulent, il y en a beaucoup de gens qui ont peur. Personne ne sache.
Le plan du président américain pourrait donc parler à une partie importante de la population. Il y a une fracture générationnelle dans la bande de Gaza, explique Noureddine Al-Mansoun.
La plupart des gens qui ont plus de 50 ans, mes amis, ils sont contre, complètement. Mais quand vous allez vers les plus jeunes, ils essaient de choisir quelque chose de plus réaliste pour leur avenir, sachant que 70% de la population de Gaza a moins de 40 ans.
Pendant la guerre, 100 000 personnes ont quitté l'enclave d'après des chiffres palestiniens. Et dans le nord, des centaines de milliers de familles essayent maintenant déjà de se réinstaller au milieu des décombres.
Merci Étienne Monin avec des témoignages recueillis à distance puisque l'armée israélienne empêche toujours l'accès de la presse internationale à Gaza. Bonjour Valentin Dunat.
Bonjour.
Vous êtes à Tel Aviv, plus au nord, en Israël. Vous avez rencontré, vous avez discuté ce matin avec des Israéliens. Comment perçoivent-ils ces déclarations ?
Un mot revient sans cesse aujourd'hui ici en Israël, pays qui s'est donc réveillé en découvrant cette bombe lâchée par Donald Trump. Et ce mot, c'est...
stupéfaction quand même. C'est vraiment inattendu. C'est hardi. Je pense qu'il y a de l'exagération quand même. Mais sur le fond, je trouve ça pas totalement idiot. Y compris pour les Palestiniens.
Et ce point de vue que nous partage ce franco-israélien est plutôt répandu en Israël, hein, et même majoritaire. Mais les Israéliens ne sont pas dupes non plus quand Donald Trump fait de telles déclarations. Il s'agit de ne pas les prendre au pied de la lettre. Simon est également franco-israélien.
Il promet des trucs pour avoir un minimum. C'est pas possible ce qu'il vient de dire. C'est faire annexer tout un territoire pour faire ce qu'il veut faire, non. Je suis pas d'accord, c'est pas bon. Je sais qu'il dit ça pour avoir un minimum.
Et le minimum en question, qui est un peu passé sous les radars hein, dans la déclaration de Trump, c'est pour certains l'annexion de la Cisjordanie. Enfin, autre point très important ici en Israël, ce qui est évoqué par Donald Trump, c'est un déplacement de population. Le président américain, comme la droite israélienne, utilise le mot de transfert, de déplacement, jamais de déportement. Près de 2 millions de personnes vivant à Gaza sont concernées. Et pour certains juifs d'Israël, compte tenu de leur histoire, c'est à tout le moins moralement dérangeant. Quoi qu'il en soit, cette idée imposée donc par Donald Trump permet au moins aux Israéliens de mesurer l'ingérence des Américains qui commencent à prendre ostensiblement le contrôle de la région.
Valentin Dunat en direct de Tel Aviv avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Alors il est intéressant de s'arrêter sur le calendrier de cette prise de position. Elle intervient alors que les négociations sur la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste Hamas doivent reprendre. Et quelques jours après la visite sur place de l'émissaire de Trump pour le Moyen-Orient, Stephen Witkoff, homme d'affaires new-yorkais, spécialisé lui aussi dans l'immobilier. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, on a entendu à l'instant la réaction d'Israéliens de la rue. Parmi les responsables politiques israéliens, là aussi, cette proposition de Trump paraît crédible. Il y a même une forme d'unanimité.
Oui, unanimité. Le leader de l'opposition, par exemple le centriste Benny Gantz, parle d'un plan intéressant, créatif et original. Et puis de l'autre côté du spectre, le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, fermement opposé à la trêve à Gaza, applaudit lui dès demain et remercie le président américain Donald Trump, qui est un messager de Dieu pour le dirigeant du parti ultra-orthodoxe Chasse, il s'appelle Aryeh Deri, et lui aussi est membre de la coalition au pouvoir. Côté palestinien, vous vous en doutez, c'est la douche froide. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, lui-même expulsé en 1948 de ses terres au nord d'un territoire qui deviendra Israël, parle de graves violations du droit international.
Oui, car proposer un exode vers la Jordanie ou vers l'Égypte, ça rappelle un cauchemar aux Palestiniens de Gaza. C'est le scénario du pire.
Ouais, une nouvelle Nakba, selon les termes utilisés par beaucoup d'habitants de Gaza et de Cisjordanie occupée. La Nakba, Jérôme, c'est la catastrophe en arabe quand 750 000 Palestiniens ont quitté en 1948 ce qui deviendra l'État hébreu. Depuis la guerre à Gaza, il y a près de 2 millions de déplacés dans l'enclave. Quasiment toute la population et 70 à 80% de ces Palestiniens sont des descendants de réfugiés de 1948. Ils bénéficient à ce titre du statut spécifique de réfugié. Donald Trump a promis hier que tout le monde, arabe et juif, pourrait revenir dans l'enclave après la reconstruction. C'est pour le moment le rêve de l'extrême droite suprémaciste au pouvoir qui veut rebâtir des colonies et le drame d'une autorité palestinienne qui n'a depuis hier plus aucun espoir de pouvoir un jour exercer de nouveau sa souveraineté sur Gaza.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Alors les réactions internationales sont très nombreuses. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour.
On va les détailler avec vous dans un instant. Avant cela, je voudrais qu'on regarde ce que dit le droit international qui régit les relations entre pays. Le déplacement forcé d'une population, c'est une violation du droit, rappelle Johan Soufi, ancien chef du bureau des affaires juridiques de l'ONU.
Ça constitue une violation des principes les plus fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force, qui sont un peu les piliers de la Charte des Nations Unies et ce qui garantit la sécurité internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si c'était mis en œuvre, ça constituerait clairement un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Le déplacement, la déportation de populations forcées est un crime au regard des conventions de Genève et du statut de Rome. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale qui, par le biais de son président, eh bien, commence à évoquer la possibilité, à Gaza, mais aussi au Groenland ou dans d'autres régions du monde, d'acquérir un territoire par la force. Et donc, c'est un retour à la loi du plus fort.
Johan Soufi, au téléphone de Sébastien Legénie. On entend ce que dit le droit Frédéric Saïs. Est-ce que cet argument est repris ce matin par les pays qui réagissent ?
Oui, premier argument mis en avant par la France, le déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza constituerait une violation grave du droit international, estime ce midi le Quai d'Orsay. Ce serait également une entrave à la solution à deux États et un facteur de déstabilisation majeur de la région, affirme la diplomatie française. À l'unisson avec Berlin, Gaza appartient aux Palestiniens, même tonalité à Londres. Les Palestiniens doivent pouvoir vivre et se développer chez eux, à Gaza et en Cisjordanie, estime le gouvernement travailliste britannique. En Europe toujours, mais plus tiède, la réaction de l'Italie. Vous savez que Giorgia Meloni était la seule dirigeante européenne à l'investiture de Donald Trump. Rome qualifie le plan Trump, je cite, de « difficile » compte tenu des réponses négatives de la Jordanie et de l'Égypte. Les deux pays cités par le président américain pour accueillir les Gazaouis, tous deux réagissent d'ailleurs différemment ce midi. L'Égypte réaffirme son opposition ferme à ce projet. La Jordanie, elle, joue la discrétion et la diplomatie avant la visite du roi Abdallah II à Donald Trump en début de semaine prochaine. Et puis parmi les voix les plus fortes, celle de la Turquie qui juge inacceptable les déclarations de Donald Trump. L'Arabie Saoudite également affirme qu'elle ne nouera jamais de lien diplomatique avec Israël sans la création d'un État palestinien. En revanche, mutique pour l'instant, le Maroc qui a lui établi des relations avec l'État hébreu et le Qatar qui joue les médiateurs pour le cessez-le-feu.
Et dont on attend la réaction évidemment avec impatience. Merci Frédéric Saïs. Dans ce contexte international, les mots de Volodymyr Zelensky passent un peu au second plan. Le président ukrainien redit dans une interview à un média britannique être prêt à des négociations directes avec Vladimir Poutine à condition qu'il y ait autour de la table d'autres dirigeants internationaux. Tout cela pour mettre un terme à la guerre. Ce sont des déclarations vides de sens, commande ce matin un porte-parole russe. En Afghanistan, cette radio était pour beaucoup de jeunes filles la dernière possibilité de suivre des cours à distance, celles qui ont interdiction d'aller à l'école à partir de 12 ans. Radio Begum a cessé d'émettre hier après une opération de police menée par les talibans dans les locaux de Kaboul. Deux employés hommes ont également été arrêtés. Nous avons pu joindre ce matin la fondatrice de Radio Begum, Amida Aman, elle fait des allers-retours entre la France et l'Afghanistan.
Clairement, la radio Begum est visée parce que c'est une radio pour femmes, parce qu'on dérangeait apparemment et ça faisait un moment qu'ils cherchaient des excuses pour pouvoir couper notre antenne et couper nos voix. Et voilà, c'est une atteinte supplémentaire, j'ai l'impression, pour les femmes.
Vous avez parlé de deux employés arrêtés. Vous craignez pour leur sécurité aujourd'hui ?
Je suis bien sûr bien inquiète et je demande leur libération immédiate. Je ne pense pas que leur vie soit pour l'instant en danger, mais je pense que leur famille, leurs proches et eux-mêmes doivent être extrêmement inquiets. Et notre priorité, c'est leur libération et leur liberté et leur bien-être.
La fondatrice de Radio Begum au téléphone de Nathanaël Charbonnier. Lui a retrouvé la France ce matin, 19 ans après son arrestation en Indonésie. Le Français Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue malgré ses dénégations, a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, mais il n'est pas libre. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Escorté par des policiers, il a été conduit au tribunal de Bobigny. Que va-t-il lui arriver ?
Alors, le passage était rapide dans ce tribunal de Bobigny, compétent pour l'aéroport de Roissy. Serge Atlaoui a été présenté au procureur pour décliner son identité. Le parquet lui a notifié son incarcération en France. Simple interrogatoire de formalité, maître Richard Sédillo et son avocat.
Il ne s'agit pas d'aborder ni les faits ni la procédure. Il sera alors confié à l'administration pénitentiaire dans l'attente de l'audience qui se tiendra devant le tribunal correctionnel qui statuera sur l'adaptation en France de la peine qui a été prononcée en Indonésie.
En attendant cette audience dont la date n'est pas encore fixée, Serge Atlaoui a été pris en charge par l'administration pénitentiaire, emmené tout à l'heure à la prison d'Oni dans le Val d'Oise. Sa famille va faire des demandes de visite. Son avocat devrait pouvoir le voir demain ou après-demain. Richard Sédillo qui prépare dès à présent l'audience devant le tribunal correctionnel pour pouvoir faire sortir Serge Atlaoui au plus vite.
Il ne faut pas oublier qu'il a été jugé dans des conditions que j'expliquerai, qui sont à mon sens infiniment critiquables. Pour avoir lu l'intégralité du dossier, je sais qu'il est innocent. Il a été détenu pendant 19 ans. Tous ces éléments me laissent clairement à penser que sa mise en liberté doit intervenir le plus rapidement possible.
Et d'ici là, le Français de 61 ans devrait aussi passer rapidement un bilan médical. En Indonésie, il se rendait chaque semaine dans un hôpital proche de sa prison pour suivre un traitement.
Delphine Evenou pour ces informations. Les drapeaux en berne ce matin sur de très nombreux bâtiments publics en Suède au lendemain de la pire tuerie de l'histoire du pays. Elle s'est déroulée dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro, une ville du centre du pays. Ce matin, la police a confirmé que l'homme armé avait tué 10 personnes et s'était probablement suicidé, mais ses motivations ne sont pas connues.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Amélie de Montchalin, la ministre chargée du budget et des comptes publics, était l'invitée d'Inter ce matin. Et elle a été interpellée par de très nombreux auditeurs sur un choix du gouvernement qui est passé, c'est vrai, un petit peu inaperçu. Le budget 2025 prévoit d'abaisser le seuil d'exemption de TVA pour les petites entreprises, celles qui font 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Cela veut dire concrètement que 250 000 auto-entrepreneurs supplémentaires vont devoir payer cette TVA, d'où les nombreuses réactions ce matin sur l'antenne d'Inter. Marion Ferrer, vous êtes avec nous, vous avez pu joindre certains de ces auto-entrepreneurs. Quelles vont être les conséquences?
Tout d'abord, ils vont devoir faire face à beaucoup plus d'administratifs, être davantage vigilants à leur comptabilité. Claire Sanchez est auto-entrepreneur depuis 7 ans.
C'est une gestion à part entière. Il faut faire attention quand vous vous rapprochez de ce seuil des 25 000 euros de bien basculer sur la TVA. Donc, ça demande effectivement beaucoup d'efforts comptables et beaucoup d'administratifs pour des gens qui cherchent à se simplifier la vie à la base avec ce statut d'auto-entrepreneur.
L'autre impact, c'est une baisse évidente de leur marge et beaucoup craignent de voir leurs clients partir s'ils augmentent leurs tarifs afin d'absorber ces 20% de TVA.
Clairement, on en perd certains. Quand les gens ne comprennent pas pourquoi vous augmentez les tarifs et qu'ils n'ont plus le budget pour s'autoriser vos prestations, ils passent à quelqu'un d'autre ou ils arrêtent complètement de faire appel à nos services.
Selon la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, le gouvernement espère récupérer plus de 400 millions d'euros par an. Mais pour son président, Grégoire Leclerc, beaucoup vont tenter d'éviter cette TVA.
De toute façon, l'État se trompe. L'État ne récupérera pas la TVA qu'il espère parce qu'en réalité, les auto-entrepreneurs, ils vont se restreindre ou alors ils vont frauder ou alors ils vont déclarer une deuxième auto-entreprise au nom de leur conjoint, de leur conjointe. Donc tout ça fait que les gens se débrouilleront de toute manière pour ne pas dépasser le plafond, évidemment.
Interrogée ce matin sur notre antenne, la ministre chargée du budget et des comptes publics assume, elle justifie une simplification des différents taux de TVA.
Marion Ferrer, l'Union européenne, elle veut renforcer les contrôles contre les produits illégaux et pour cela, elle va imposer des frais de traitement aux colis qui sont vendus par des plateformes en ligne et qui entrent de l'Union européenne. Comprenez, qui viennent de pays qui ne sont pas dans l'Union et notamment les produits chinois. Environ 91% de ces petits colis viennent de ce pays, vendus notamment par des plateformes comme Temu ou Shein. Et le nombre de ces colis a doublé en un an entre 2023 et 2024. Je vous parlais du budget de la France il y a un instant. Il devrait être adopté cet après-midi et sans vote, puisque les deux motions de censure déposées par l'opposition à l'Assemblée nationale vont être examinées. Elles ne seront pas adoptées puisque le Parti socialiste et le Rassemblement national ont fait savoir qu'ils ne les voteraient pas. Là, c'est un budget qui n'est toujours pas bouclé et loin de là. Celui de la Coupe du Monde de rugby 2023, organisé, on s'en souvient, en France. On savait déjà qu'il y avait un trou de 16 millions d'euros dans la caisse. Mauvaise nouvelle supplémentaire pour la Fédération française de rugby. Le groupement d'intérêt économique qui avait en charge l'organisation s'est vu notifier un redressement fiscal. Et si on ajoute les pénalités, il y en a pour plus de 20 millions d'euros. Fanny Lechevestrier est à Marcoussis, le centre d'entraînement du rugby français.
Et c'est concentré sur le terrain que Florian Grill, le président de la fédération, a assisté à l'entraînement des Bleus tout à l'heure à Marcoussis. S'il n'a pas voulu commenter l'affaire, il a confirmé brièvement que la fédération pourrait se retrouver prochainement en cessation de paiement. En cause, la commercialisation durant la Coupe du Monde par France 2023, dont la FFR est partie prenante, des hospitalités de match. Vous savez, ce sont ces prestations offrant à des clients billets, voyages, restauration par exemple, pratique tout à fait légale, mais ce que le fisc conteste aujourd'hui, c'est le taux de la TVA appliqué par le comité d'organisation, une taxe à 5,5% au lieu de 20%. L'administration estime aussi que France 2023 fait preuve de mauvaise foi sur ce dossier et ajoute des pénalités. Résultat, 20 millions d'euros à rembourser, dont 12 à payer par la seule fédération déjà déficitaire. Aujourd'hui, tout le monde conteste ce redressement fiscal et espère encore obtenir gain de cause. Mais une certitude, si la Coupe du Monde de rugby à la maison a été un succès populaire, elle se révèle être aussi un désastre financier qui n'a pas fini de plomber les comptes des Bleus.
Fanny Lechevestrier à Marcoussis, où le 15 de France se prépare donc avant son match en Angleterre, samedi dans le cadre du tournoi des Six Nations. En Savoie, c'est la mobilisation générale depuis samedi dernier pour dégager la Nationale 90, la route qui permet l'accès aux stations de ski de la Tarentaise, Val d'Isère, La Plagne ou encore les Arcs, en partie bloquée par des chutes de rochers. La voie sera dégagée soit dans la nuit de vendredi à samedi, soit dimanche matin. La préfecture doit le faire savoir dans la journée. En tout cas, cette Nationale 90 ne restera pas fermée pendant toutes les vacances de février. Des automobilistes qui sont plus que jamais sur leur garde à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, où les vols de pièces détachées de voitures sont en pleine explosion. Plus 39% en 2023, ce sont les chiffres, plus 39% en 2024 par rapport à 2023, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des pièces volées en pleine rue et parfois en plein jour, comme l'a constaté Fabien Ledu dans le 12e arrondissement de Marseille.
Oui, au Petit Bosquet, la voisine qui habite en face d'André en vient à un drôle de manège.
Ils y ont fauché la batterie une fois, elle l'a remplacée. Le lendemain, ils y ont fauché. Et maintenant, la troisième batterie, elle la met quand elle part, elle la démonte quand elle arrive.
Une rue plus loin, c'est Jean-Marie qui en a fait les frais.
La voiture de ma femme était garée devant, s'est aperçu qu'il manquait le rétroviseur. C'est vrai que c'est de plus en plus récurrent.
Mais ce n'est rien à côté de David.
C'est une DS3.
Il a retrouvé sa voiture à moitié désossée devant chez lui.
Ils ont levé la calandre, ils ont levé les phares, ils ont levé le capot, tout le devant de la voiture.
Le bloc avant, c'est le vol le plus répandu en ce moment à Marseille. La pénurie de pièces détachées fait grimper les prix. Georges est garagiste, avenue de Montolivet.
Pour un Q3, le Resport, il y en a pour 15 000 euros. Un phare, il vaut 3 000 euros. Donc deux phares, ça fait 6 000. Le pare-choc, 800 ou 900 euros. Et après, on le retrouve sur le bon coin.
Les voleurs agissent sur commande pour alimenter le marché parallèle. Des vols si fréquents que pour les assurés, comme pour David, c'est parfois la double peine.
Mon assurance, maintenant, ne me prend plus en charge le vol. Ils ont dit, on peut plus vous assurer pour le vol parce que ça fait deux vols d'affilée, quoi. Maintenant, je rentre ma voiture.
Reportage ici Provence. Là, nous ne sommes plus dans la rue. Il s'agit d'une escroquerie plus mondaine. 5 suspects interpellés la semaine dernière en région parisienne, dont 4 de la même famille, soupçonnés d'escroquerie aux faux traders. Il y en a pour plus de 2 millions d'euros de préjudice. Une trentaine de victimes ont été identifiées. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Il s'agit d'un système bien rodé qui permettait de mettre les investisseurs en confiance.
Oui, une partie des victimes connaissaient les suspects pour les avoir par exemple croisés dans des soirées. Le couple se dit trader et est soupçonné d'avoir convaincu ses cibles d'investir en jouant l'ambiguïté, comme souvent dans ces dossiers, avec des sociétés qui existent réellement. Détail Alexandre Lebido, il est substitut du procureur à la section financière du parquet de Paris qui a conduit cette enquête avec les policiers de la brigade de répression de la délinquance astucieuse.
Par exemple, en créant des sociétés un peu clones qui vont emprunter le nom de la société usurpée, en utilisant aussi parfois l'identité de vrais salariés, du conseiller clientèle jusqu'au directeur des affaires financières.
En mai 2023, une femme finit par porter plainte, alertée par des incohérences, même si elle a reçu ce qu'elle pense être un retour sur investissement. En réalité, la mise est suivante.
Premières sommes collectées vont servir à payer des intérêts aux premières victimes ou à les rembourser également si jamais il y a des demandes de remboursement anticipées.
Et mise en confiance par ces prétendus gains, certaines victimes ont convaincu des proches d'investir à leur tour. Des faits pour lesquels les suspects sont convoqués devant la justice dans quelques mois. Justice qui s'intéresse aussi au principal suspect pour une autre affaire. L'homme a été placé en détention provisoire après que le corps de l'un de ses associés a été retrouvé démembré dans l'Ain en mars dernier.
Ariane Grissel, pour ces précisions, on parle beaucoup en ce moment de la mer et des sables d'Olonne en Vendée en raison des arrivées qui se succèdent dans le Vendée Globe, le tour du monde à la voile. Mais tous ceux qui se sont promenés ces derniers jours sur la grande plage des Sables ont découvert un chantier très impressionnant. Un système de thalassothermie va permettre d'utiliser l'eau de mer pour chauffer 50 000 mètres carrés de logements privés et de bâtiments publics en centre-ville. Ce système existe déjà à Sète ou encore à Marseille et au Sable. Yves René Tapon est allé voir sur place.
Un énorme barrage de sable sur la plage formé non pas par la mer mais par les pelleteuses.
C'est impressionnant, joli château de sable. Hein.
Arthur a compris l'essentiel.
Ils passent des tuyaux pour alimenter en chauffage beaucoup de bâtiments dans le coin. C'est tout ce que je sais. C'est une très très bonne idée. Ouais.
Aux premières loges aussi, Elsa qui tient le bar de la piscine du Remblai.
C'est très impressionnant. Je pensais qu'ils allaient faire une deuxième piscine devant. On aurait été encerclés et on se croirait pendant les grandes marées.
La thalassothermie consiste sur le principe des pompes à chaleur à utiliser les calories de l'eau de mer pour alimenter des systèmes de chauffage, d'eau chaude et de climatisation de 17 bâtiments. Le maire Yannick Moreau.
Il y avait déjà en fait des drains sous la plage des Sables d'Olonne qui pompaient l'eau de mer pour maintenir un niveau de sable sur la plage depuis des décennies. Et en fait, on utilise les drains qui sont présents et les pompes qui sont déjà présentes sur le bord de la mer pour faire, avec une pompe à chaleur, de l'énergie qui chauffera la piscine de Rambonnet, les Atlantes, la base de mer, l'hôtel de ville, un collège, une école et bien d'autres bâtiments. Et donc ça, c'est une énergie inépuisable.
Reste à construire plusieurs kilomètres de réseau de chaleur. La ville espère amortir l'investissement sur une dizaine d'années.
Reportage ici, Loire-Océan, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Vos critiques de la semaine, on commence avec un film d'épouvante intitulé Présence.
Ah oui, voici le nouveau projet de Steven Soderbergh et comme souvent avec lui, on n'est pas déçu. Le réalisateur entre autres d'Ocean's Eleven et d'Erin Brockovich s'essaie ici au genre du film de maison hantée.
Scary. The world cracks apart. You fall into this hole.
Au cœur d'une classique banlieue américaine cossue façon Desperate Housewives, la famille Penn emménage dans une grande et belle maison dont nous ne sortirons pas pendant 1h25, un huis clos filmé en caméra subjective puisque nous autres spectateurs voyons l'intrigue avec les yeux du fantôme, la fameuse présence du titre. Mmh. Un concept qui pourrait tourner au gadget s'il n'était pas aussi bien exploité par Soderbergh, qui en profite pour nous faire réfléchir aux très actuelles notions de l'emprise et du consentement.
Vous êtes moins convaincu en revanche par Maria, le biopic consacré à la Callas.
Et c'est pourtant un maître du genre, Pablo Larraine, qui signe ce récit biographique consacré à la légendaire cantatrice. Le cinéaste s'est en effet déjà frotté aux destinées de Neruda, Pinochet, Jackie Kennedy et Lady Di.
My life is opera. There is no reason in opera.
C'est Angelina Jolie qui interprète le rôle-titre de ce biopic qui se concentre sur la dernière semaine de la vie de cette superstar de l'art lyrique dans son appartement parisien. L'occasion pour elle et pour nous de dresser le bilan de sa prestigieuse mais chaotique carrière et d'évoquer sa relation toxique avec l'armateur grec Aristote Onassis. L'ensemble est malheureusement trop froid et nous laisse à distance tandis que la mise en scène de la reine multiplie les artifices sans grande cohérence.
Un premier film français à attirer votre attention, Alexis, ça s'appelle La Pampa.
Bon, les gars, il reste une course, hein. Allez, hein.
T'inquiète.
Faut rien lâcher.
On va s'entraîner.
Maintenant, c'est tous les jours à La Pampa.
Si vous avez aimé Vingt Dieux, Chien de la Casse et Rodéo, vous serez sans doute curieux de découvrir ce long métrage du jeune Antoine Chevrolier qui s'intéresse à son tour à la jeunesse rurale. Ici, les héros s'appellent Willy et Jojo, deux amis d'enfance qui rêvent d'être champions de motocross et qui s'entraînent dans un terrain vague baptisé la Pampa. Mais un drame va séparer nos deux jeunes gauchos sur fond de harcèlement scolaire et d'homophobie. Ce récit d'apprentissage contrarié, malgré quelques faiblesses d'écriture, est l'une des belles surprises françaises de ce début d'année.
Avec notamment le réalisateur humoriste Artus.
Tout à fait, qui est très bon.
Quoi d'autre en salle cette semaine, Alexis?
God Save the Tuche, cinquième volet des aventures, drôles ou lourdes selon les goûts de Jeff Tuche et de sa famille. Paddington au Pérou, troisième volet, lui, des tribulations de l'ours animé qui cette fois-ci va gravir le Machu Picchu. Et 5 septembre, sur la prise d'otage au JO de Munich en 72, dont Corinne Pélissier nous parlera ce soir dans Un jour dans le monde.
Voilà le petit placement de produit, c'est avec Fabienne Synthèse ce soir. Merci Alexis Demeyer, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, toutes vos questions sur la qualité de l'eau en France. Quelle eau consommer? Quelles précautions prendre? Comment est-elle contrôlée? 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans la vie d'une ex-syndicaliste CGT, devenue préfète. C'est Marilyn Poulain, préfète à l'égalité des chances en Alsace. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, l'intelligence artificielle, nous Français serions en retard.
Et oui, est-ce que nous avons déjà cédé l'intelligence humaine à une intelligence artificielle? Et pour commencer, nous, la France, avons-nous les moyens de notre intelligence?
Avant le sommet qu'organise la France sur l'intelligence artificielle et qui débute demain. Et avec vous Frédéric, un guitariste.
pas artificiel du tout.
Non, il est en chair et en os.
Benjamin Equimian, plus connu sous le nom de Wax. Il est en concert cette semaine aux Folies Bergères à Paris. Et avec lui, nous écouterons une chanson de l'américaine Fiona Apple qu'il considère comme la plus grande artiste encore en vie.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Enfin, au livre de poche, le roman de Serge Chalandon, L'Enragé. 1934, 56 gamins d'une colonie pénitentiaire se révoltent et s'enfuient. Tous seront capturés, sauf un. L'auteur imagine le destin de cet enfant, un fauve né sans amour, un enragé. L'Enragé de Serge Chalandon, un roman déchirant au livre de poche.
Radio France et France Télévisions présentent, ici, le média de la vie locale. À la télévision, à la radio et sur le web. Ici, c'est le média qui parle d'ici, de notre quotidien, de tout ce qui se passe dans notre région, notre ville ou encore notre village. Parce que vivre au même endroit, c'est partager amour, emmerdement, éclat de rire. Ici, le média qui vit comme nous. Ici.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Des nuages au nord, c'est ensoleillé en revanche au sud.
Oui, entre des grisailles qui évoluent difficilement et la rentrée d'une perturbation faiblement active, le ciel restera bien chargé cet après-midi de la Vendée et du Poitou à l'Île-de-France, au centre-Val de Loire et à l'Aisne, jusqu'au Lyonnais et au quart nord-est. Alors les hauteurs du Jura et des Vosges émergeront de cette couche nuageuse et profiteront du soleil, alors que quelques gouttes isolées pourront se faire remarquer sous les nuages les plus épais. Des éclaircies se développent sur la Bretagne et la Basse-Normandie ainsi que sur le Boulonnais et elles vont gagner du terrain vers le pays nantais, l'ouest parisien, la région lilloise et la Somme. La Somme qui reste d'ailleurs en vigilance orange pour les risques de crues. Des Charentes à l'Aquitaine jusqu'à l'Occitanie et des Alpes à la Côte d'Azur et la Corse, l'après-midi sera largement ensoleillé avec un ciel quasiment tout bleu. Alors quelques grisailles récalcitrantes pourront quand même jouer les troubles faits entre le Gers et le Tarn. Évidemment, sans surprise, les maximales ont du mal à atteindre les valeurs de saison sous les nuages, alors qu'il fait plutôt doux sous les éclaircies et le soleil. Seulement 4 degrés à Nancy, 5 degrés à Strasbourg, 6 degrés à Dijon et à Lyon, 7 degrés pour Paris, 8 degrés à Lille, alors qu'il fera 12 degrés à Brest et Aurillac, 13 degrés à Bordeaux, Toulouse et Marseille, et 14 degrés à Nice, 16 à Ajaccio, jusqu'à 18 à Perpignan.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Mais quelle eau faut-il boire ? Il faut bien dire que les informations qui nous parviennent depuis quelques jours peuvent laisser perplexes. Il y a deux semaines, le laboratoire Eurofin et les associations UFC Que Choisir et Génération Future nous apprennent que l'eau potable est massivement contaminée par des polluants éternels. Les PFAS, mais les taux observés restent en dessous des seuils réglementaires. Pour ceux qui seraient tentés par l'eau en bouteille, une étude menée par des scientifiques toulousains portant sur 10 marques vendues en grande surface montrait il y a peu qu'elle contenait, comme l'eau du robinet, des microplastiques. Hier matin, enquête de la cellule investigation de Radio France qui met en cause les pratiques du groupe Nestlé. Hier soir, la Commission européenne nous apprend que seuls 40% des masses d'eau de surface de l'Union européenne sont en bon état écologique. Et puis à l'inverse, la semaine dernière, on apprend que des moules ont fait leur retour dans la Seine, preuve de l'amélioration de la qualité des eaux du fleuve. Alors que faut-il penser de toutes ces informations ? Faut-il s'inquiéter pour nos santé ? Et quel est le bon choix pour les consommateurs ? Deux invités pour vous éclairer. Mathieu Combe, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes ingénieur, chimiste de formation, vous êtes devenu journaliste, vous avez fondé le média Natura Science, vous avez publié en 2019 « Survivre au péril plastique », c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Avec nous également Gaël Leroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS à Toulouse, ingénieur en biogéochimie. Vous venez de publier l'étude dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, cette étude sur les microplastiques dans les eaux en bouteille et dans l'eau potable. 01 45 24 7000 pour vos appels. Vous passez également via l'application France Inter. Première question très simple, Mathieu Combe, quelle eau buvez-vous ?
De l'eau du robinet.
Du robinet, pourquoi ?
Parce qu'elle est plus écologique et que c'est assez complexe de pouvoir la dépolluer totalement. Donc je pourrais installer un filtre à osmose inverse sous mon robinet, mais je ne l'ai pas fait.
Et pourquoi c'est plus écologique ? Parce qu'il n'y a pas de plastique autour,
parce
tout simplement ?
Exactement, il n'y a pas de plastique.
Et vous avez le sentiment qu'elle est de bonne qualité, en tout cas qu'elle est bonne pour votre santé ?
En tout cas, elle est de la même qualité ou une qualité similaire que l'eau en bouteille. Donc je ne vois pas l'intérêt d'acheter de l'eau en bouteille.
Même question pour vous, Gaël Leroux.
Oui, votre second intervenant a donné la bonne réponse. Et pour rajouter quelque chose donc sur la qualité de l'eau du robinet aussi, l'eau en bouteille, malheureusement, représente un coût écologique environnemental important. Environ pour un litre d'eau minérale en bouteille plastique, il faut entre un quart et un demi-litre de pétrole. Donc ça, ça vous permet de caractériser l'énergie consommée pour produire cette eau en bouteille.
Vous diriez que l'état de l'eau du robinet que vous buvez à Toulouse est aussi bon ou aussi mauvais que l'état des eaux en bouteille que vous pourriez acheter près de chez vous ?
Alors ça, c'est une bonne question. L'eau achetée près de chez vous, ça, il y a un peu de confusion. Et on pourrait acheter de l'eau des Pyrénées, donc oui. L'eau minérale des Pyrénées. Mais l'eau du supermarché, là, ça, c'est des eaux qui viennent de très loin, parfois d'Italie, voilà, des Vosges. Et là, ça représente un coût écologique. Et sur la qualité des eaux...
Ça dépend du trajet, beaucoup transporté les eaux ou pas, d'accord ?
Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, parce que autrement l'eau est relativement bien surveillée, même si, comme vous l'avez dit, vos collègues de la cellule d'investigation ont mis en évidence des conflits entre la qualité de l'eau et les intérêts économiques.
Question de Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour France Inter, bonjour les auditeurs, bonjour aux invités.
Alors vous êtes maire d'une commune dans les Deux-Sèvres, on prononce Chizé, c'est ça ?
Exactement, Chizé.
Et il y a un sujet sur la qualité de l'eau dans votre commune, Daniel ?
Alors, c'est un sujet... Alors, par exemple, dans le département des Deux-Sèvres, il faut savoir qu'il y a 30 ans, on avait 130 captages d'eau potable pour distribuer à l'ensemble de la population du département, et qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à une trentaine, parce que c'est assez compliqué de protéger contre notamment les pollutions diffuses l'ensemble des périmètres de protection. Ce qui fait que je me suis inscrit parmi la liste des 200 et quelques maires qui ont pris un arrêté pour limiter les pesticides et protéger la santé des habitants en essayant d'éloigner les épandages des pesticides dans les champs vis-à-vis des maisons. Mmh. Or, mon arrêté, comme celui de mes collègues en France, a été attaqué systématiquement par les préfets, et le Conseil d'État a arbitré en disant « Seul le ministère de l'Agriculture est compétent en la matière, vous les maires, restez dans vos communes, occupez-vous de vos affaires ». La santé publique, c'est pas votre affaire. Moi, je considère que ça fait partie de notre sujet de préoccupation aussi, même si on n'a évidemment pas des spécialistes ni des scientifiques. Et la question que je pose, alors déjà, ça devient de plus en plus compliqué pour les syndicats d'eau de distribuer de l'eau conforme aux normes.
Ouais.
Les périmètres de protection, ça devient très compliqué de pouvoir éloigner les pollutions, notamment des pesticides, puisque c'est le sujet. Ça devient de plus en plus cher. Par exemple, pour mettre en service une usine pour enlever les pesticides avec des charbons actifs, ça coûte pas loin du million d'euros en investissement. Et je vous parle pas du coût d'entretien.
J'ai besoin de votre question, Daniel.
Je l'amène. Voici. Alors, pourquoi est-ce que le ministère de la Santé n'a pas la priorité sur la définition des molécules qui sont mises sur le marché et qui sont mises autour de nous, dans l'eau, dans l'air qu'on respire ?
Puisque vous nous dites que c'est le ministère de l'Agriculture qui tranche, c'est bien cela.
Et voilà.
Merci, Daniel, pour cette question. Mathieu Combes.
Alors pour les normes de les normes de potabilité, ça relève du ministère de la Santé.
D'accord.
En revanche, dès qu'on a affaire aux pesticides, dès qu'on veut encadrer les pesticides, là, c'est le ministère de l'Agriculture qui entre en jeu et qui peut justement faire annuler des arrêtés s'il juge que quelque chose est disproportionné par rapport à l'intérêt pour la santé publique.
Ces normes, elles sont fixes ces dernières années, ou bien on a tendance à être de plus en plus exigeant sur la qualité de l'eau qu'on boit ?
Alors pour les pesticides, on a une norme qui est fixe, limitée à 0,1 microgramme par litre pour chaque pesticide, et pour l'ensemble des pesticides, à 0,5 microgramme par litre. On va avoir une nouvelle norme pour les PFAS en 2026 qui limitera...
Les polluants éternels ?
Les polluants éternels, les fameux. Qui limitera la totale pour 20 PFAS à 100 nanogrammes par litre.
Ça veut dire que en 2026, donc l'année prochaine, les normes concernant les PFAS seront plus contraignantes. Est-ce qu'aujourd'hui on y est ? Est-ce que ça va, si c'était déjà le cas aujourd'hui, est-ce que ça entraînerait peut-être des interdictions de consommation d'eau dans plusieurs communes ?
Alors, il y a une étude qui a été menée très récemment par Génération Future, en accord avec UFC Que Choisir, et ils ont montré que sur une trentaine de communes, quasiment la totalité était contaminée par des PFAS, l'eau du robinet, mais qu'elle respectait cette norme de 100 nanogrammes par litre. En revanche, ce qui souligne, c'est que cette norme est pas très prohibitif par rapport à d'autres qui peuvent exister, notamment aux États-Unis ou bientôt au Danemark, pour certains PFAS. Parce que là, c'est pour l'ensemble de 20 PFAS, mais pas pour les plus dangereux. Donc en fait, il n'y a pas de normes spécifiques pour certains PFAS jugés toxiques et cancérigènes.
Gaël Leroux, vous avez étudié avec plusieurs de vos collègues, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS à Toulouse, la présence de microplastiques dans les eaux, à la fois des eaux en bouteille et aussi des eaux du robinet. Vous avez constaté qu'il y en avait autant dans l'un comme dans l'autre ?
Oui, on est sur les mêmes ordres de grandeur, donc sur les mêmes quantités. Il y en a légèrement plus dans l'eau du robinet, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'a priori, les eaux minérales, ce sont des eaux souterraines, donc elles sont quand même, a priori, relativement préservées de la pollution plastique, qui est une pollution relativement récente. Depuis une cinquantaine d'années, on produit ces polymères artificiels. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les microplastiques, ce sont des contaminants qui sont encore très peu connus. Donc, un peu comme pour les PFAS, la technologie arrive maintenant à un degré de relative maturité qui nous permet de détecter ces micro-contaminants qui n'étaient pas identifiés avant. Mais ils existaient peut-être déjà.
Est-ce qu'on sait déjà s'il y a des liens scientifiques faits entre la présence de ces microplastiques ou d'autres pollutions et des maladies ou des conséquences sur notre santé ?
Alors, ce qui était intéressant dans le cas de notre étude, c'est qu'on a montré que les plus fins des microplastiques, ils avaient une taille relativement similaire à celle des cellules humaines. Donc, ils étaient potentiellement, ils passaient les barrières intestinales. Et là, ils peuvent libérer des molécules organiques et donc ils vont s'ajouter au cortège d'autres polluants persistants, les polluants éternels dont vous parliez. Et donc là, on fait face à un cocktail de pollution. Et ça, cette imprégnation aux micro-polluants chimiques, on connaît très mal l'impact sur la santé. Ça fait partie d'un cocktail et c'est compliqué à évaluer de manière écotoxicologique en laboratoire.
En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas établi de lien direct et ferme.
Non, on n'a pas établi de lien ferme, en tout cas en termes d'ingestion. On commence à voir, par exemple, dans l'inhalation, quand on respire des microplastiques dans l'air, on voit aussi que ça peut causer des inflammations, donc potentiellement des causes sur le long terme. Mais pour les microplastiques, c'est encore peu étudié. On sait en revanche que ces microplastiques relarguent des additifs de type phtalate ou bisphénol. Et là, on parle de molécules organiques néfastes pour la santé.
Thibaut est en ligne avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Vous nous appelez du Perche, c'est bien cela ?
C'est bien cela, oui.
Nous vous Alors écoutons.
Oui, ma question c'était de savoir pourquoi est-ce que l'examen des fibres d'amiante dans l'eau n'est-il pas fait par l'ARS ? Nous, on fait partie des communes où malheureusement...
Agence régionale de santé.
Voilà, c'est ça. On fait partie des communes qui ont des canalisations en fibro-ciment-amiante, donc le ciment se dégrade avec les années, mais l'amiante non, et donc il se retrouve juste dans l'eau, et on n'a aucune donnée, on est impossible de savoir, et a priori les examens ne sont pas faits. Et donc boire de l'amiante, a priori, vu le scandale de l'amiante, ça paraît quand même compliqué, donc on s'interroge de savoir pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire de cette analyse des fibres de l'amiante dans l'eau.
Mathieu Combe, Gaël Leroux, qu'est-ce qu'il veut répondre
Je tente.
Mathieu Combe.
Je tente sans certitude, mais il ne doit pas y avoir en fait, de normes, de limites réglementaires tout simplement, donc pas d'obligation de démesurer.
On ne s'est pas intéressé à la présence d'amiante dans l'eau, Gaël Leroux, à votre connaissance ?
Alors, l'ANSES s'intéresse à cette question, et je pense que la question de votre auditeur est très bonne, mais effectivement, je ne crois pas qu'elle est surveillée de manière réglementaire, mais c'est une très très bonne question, et surtout que c'est un contaminant qui est quand même relativement bien connu dans l'air.
Comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser d'ailleurs à une pollution ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va regarder s'il y a des microplastiques dans l'eau ?
Alors nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on étudiait, vous savez, les microplastiques. La problématique est venue de nos collègues océanographes dans l'océan où on a montré cette pollution et cet impact sur la faune et la flore. Et on a voulu savoir si l'océan nous renvoyait via la pluie les microplastiques. Et on l'a démontré dans les pluies des Pyrénées. Et ensuite, de manière assez fort logique, les développements en recherche pure et fondamentale académique sur les cycles des microplastiques, on a appliqué les techniques développé pour la neige et la pluie des Pyrénées à l'eau du robinet et à l'eau minérale. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la recherche fondamentale pour la santé publique et pour l'évaluation de la santé des écosystèmes.
Caroline nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour. Est-ce que vos invités pourraient répondre à ces questions pour les bébés ? Est-ce que vous conseillez quand même les eaux spéciales pour les bébés qui sont très très peu minéralisées ? Ou est-ce que on ignore ce thème-là ? Et pareil, il y a des endroits de France où l'eau est très 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 calcaire. Alors est-ce que le calcaire est bon pour les bébés ou pas ? Et Est-ce que vous avez des notions spécifiques là-dessus ? Merci.
Merci beaucoup Caroline pour cette question. Mathieu Combes, vous nous dites, moi je bois l'eau du robinet, mais les bébés, est-ce qu'il faut faire le même choix ?
Alors pour les bébés, pour les nourrissons, on pourrait quand même conseiller certaines eaux minérales spécifiques. Parce qu'à ma connaissance, alors je ne suis pas médecin, hein, mais à ma connaissance, ce n'est vraiment pas bon de donner de l'eau trop calcaire au bébé.
Gaël Leroux sur ce point ?
Oui, je pense qu'il faut de questionner le pédiatre ou le médecin de famille qui saura mieux répondre en fonction du contexte local. Et je pense que certaines eaux de rivière sont très bonnes parce qu'elles sont peu chargées, contrairement à certaines zones minérales. Donc là, il faut vraiment faire en fonction du contexte local. Et il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir une richesse en termes de sol, de géologie, qui vont influencer la qualité de l'eau en termes de nutriments. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grande différence entre les eaux d'un bassin calcaire et d'un bassin granitique. Et donc ça, c'est vraiment très différent. Donc je ne peux pas vous conseiller localement quelle eau prendre pour un bébé.
Mais localement, on peut en parler à son médecin ou à son pédiatre et lui saura vous dire exactement le choix qu'il faut faire. Chez soi, on peut installer des filtres pour l'eau du robinet. On peut mettre des bâtons de charbon aussi, Mathieu Combes. Est-ce que ça, ce sont de bonnes idées ? Est-ce que ça améliore vraiment la qualité de l'eau qu'on boit ?
Alors, pour vraiment améliorer la qualité de l'eau, effectivement, la meilleure solution, je dirais que c'est un filtre à osmose inverse qu'on installe sous son robinet. Mais il faut savoir que ce filtre filtre tout.
Qu'est-ce qu'il enlève ?
Il enlève la majorité des micropolluants, mais il enlève également les minéraux essentiels qui apportent justement du bien-être, qui sont bons pour la santé. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est que les personnes rajoutent des cartouches pour reminéraliser l'eau ou alors des électrolytes. C'est possible, c'est une solution. Mais il faut savoir
vous
que...
Vous la conseilleriez ?
Ça coûte Je peux la conseiller, mais ça coûte très cher. Ça coûte quelques milliers d'euros pour vraiment un bon filtre.
Et d'un mot, le charbon, Gaël Leroux ?
Oui, je pense que le charbon, malheureusement, ça fonctionne pas. Et puis, il y a aussi un usage. Ça dépend comment on l'utilise. Ça peut filtrer certaines particules, certains pesticides. Hein, comme l'a dit le maire qui était intervenu, les filtres à charbon actifs dans le traitement de l'eau sont utilisés. Mais de là à mettre un charbon dans une carafe d'eau, ça suffit pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste de mettre de l'eau à l'air ambiante. Ça vous permet d'éviter certaines odeurs qui sont issues du traitement antibactérien dans certaines eaux. Et au bout d'une ou deux heures, l'eau a très bon goût.
Merci à tous les deux pour ces réponses précises à nos très nombreux auditeurs aujourd'hui. Gaël Leroux en direct de Toulouse, directeur de recherche au CNRS. Je renvoie à l'étude que vous avez publiée il y a quelques jours. Mathieu Combes, merci également. Je renvoie à votre média Nature à Science, 13h46 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une préfète. Pas n'importe laquelle. Marilyn Poulain, ex-cadre de la CGT, désormais préfète déléguée à l'égalité des chances dans le département du Bas-Rhin. Cécile Bidot l'accompagne toute cette semaine et aujourd'hui on les retrouve dans la cité de Lille, à Strasbourg. Un adolescent y est mort, fauché par une voiture durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Trois semaines plus tard, la préfète a invité les habitants du quartier à discuter. Certains se sentent abandonnés.
Il faut savoir qu'à la cité de Lille, il y a les rues en ligne droite, ce sont des autoroutes. Et rue de la Dolère, effectivement, il y a deux ralentisseurs devant là où j'habite. Ça ne sert à rien du tout.
Ça sert à rien ou ça sert ? Parce que normalement, dans l'absolu, c'est quand même un moyen de pouvoir limiter notamment la vitesse devant les écoles, devant aux endroits où il y a des potentiels risques. Ça peut être quand même un moyen, non ?
Oui. C'est par le dialogue qu'on arrive à retisser le lien, à recréer une relation de confiance. Et pour moi, c'est en effet en allant rencontrer les gens, en les écoutant, en étant vraiment en alerte, qu'on peut retisser ce lien de confiance, créer la réconciliation entre les institutions et la population. Moi, je crois profondément que c'est un des enjeux aujourd'hui dans la société française, c'est recréer cette relation de confiance. On sent, j'en ai parlé déjà en ruralité, dans les quartiers populaires, en effet, qu'il peut y avoir cette défiance, ce sentiment d'abandon, de délaissement. Et je pense que c'est ce qui crée, en effet, souvent une colère. Et nous, on a besoin d'incarner l'État au plus proche de ses habitants et qu'on puisse... justement montrer que l'État, ce n'est pas quelque chose hors sol, c'est bien un État au plus près, proche des citoyens et qui répond à leurs attentes, à leurs besoins, bien sûr, si ce sont des besoins qui sont censés. Mais là, c'était le cas, c'est les besoins d'équipement, besoins de services publics, les besoins d'accompagnement scolaire, besoins de sécurité. C'est des choses qui sont tout à fait légitimes.
Quitte à être un petit peu bousculé.
C'est pas gênant d'être bousculé ou chahuté au sens verbal. Je pense que il est nécessaire qu'il y ait du débat dans la société. On sent une impatience, mais qui peut se comprendre quand on se sent délaissé. C'est un sujet qui m'a toujours préoccupée quand j'étais dans mes précédentes fonctions. Cette question de la reconnaissance, de la considération, elle est intrinsèquement liée à la cohésion sociale. Se sentir reconnu, se sentir citoyen, se sentir à sa place.
Les filets sont éclatés, le ballon tu tires dessus, les filets ils passent, ça sert à rien. Genre on voudrait remettre des filets, remettre une pelouse et remettre des bancs.
Il faut prendre en compte qu'un quartier qui vit bien, c'est un quartier où les jeunes ils font du sport. Et malheureusement, ça fait 5-6 ans là que ça va plus du tout. Il faut pas vous étonner si malheureusement à chaque fin des fins d'année, les petits jeunes ou je sais pas, n'importe qui font n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de sport.
Il n'y a que le foot qui vous motive, il y a d'autres sports.
Pendant cette réunion, vous avez pris des notes sur un petit carnet où il y a un message sur la couverture. Vous pouvez me le lire ?
Dites à ceux qui m'attendent au tournant que je vais tout droit. C'est une phrase qui me parle beaucoup, oui. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Je fonce. Il peut y avoir des gens qui m'attendent au tournant, oui. Qui peuvent se dire que mon parcours atypique peut être dérangeant, troublant. Mais je m'en fous. Concrètement, ce qui compte, c'est l'intérêt des habitants. C'est être utile et efficace et sincère aussi.
Cécile Bideau pour ce feuilleton. Réalisation Stéphane Roncin.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 le mercredi. Le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, à la veille du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, vous vous interrogez sur ces deux lettres.
Et oui, IA. Ces deux petites voyelles sont en passe de devenir notre béaba, sans pour autant nous rendre baba. Au contraire, l'IA pour intelligence artificielle soulève des questions à la mesure des inquiétudes qui l'accompagnent. Qui contrôle l'IA ? Demandons-nous dans le 1 Hebdo de cette semaine. Interrogation gigogne qui en abrite bien d'autres. Qui fabrique l'IA ? Qui contrôle les ressources nécessaires à sa fabrication ? Je veux parler des 70 métaux et terres rares qui la composent, sans oublier l'énergie. Qui va gagner la bataille des normes dans cet univers où la puissance des États, États-Unis et Chine en tête, n'a que faire du droit que veulent imposer la France et l'Union européenne. Comme le disait Romain Gary, la réponse est le malheur de la question, et en particulier quand on se demande si l'IA va nous placer sous surveillance, comme la surveillance algorithmique mise en œuvre aux récents Jeux Olympiques de Paris, ou si nous avons les moyens d'exercer un contrôle démocratique de l'IA.
Alors, à toutes ces questions, j'en ajoute une. Éric, quel risque encourons-nous face à l'IA ?
Alors, réponse dans le texte qu'il a donné au 1 et titré explicitement « Qui contrôle qui ?», le mathématicien Cédric Villani montre les menaces qui pèsent sur chacun de nous, frontales ou plus insidieuses, de nous faire contrôler par l'IA depuis le logiciel espion qui aspire nos données à la campagne publicitaire qui manipule nos envies et jusqu'à nos votes. Il pointe aussi avec le grand auteur de science-fiction Alain Damasio cette servitude volontaire qui consiste en une allégeance à la technique qui nous formate, qui normalise notre pensée et nous occupe des heures entières. Le plus grand danger étant notre dépendance grandissante à ces intelligences technologiques pour agir et faire à notre place, au risque de voir nos propres compétences décliner. On en revient, Jérôme, à la vieille pensée de Socrate, qui refusait d'écrire pour éviter la paresse de l'esprit et de la mémoire. Mais aujourd'hui, avec une vitesse sans pareille pour nous bombarder de données incommensurables et faire à notre place.
Mais que peut faire la France face au déluge des Américains, des Chinois sur l'intelligence artificielle ?
Et oui, la question est brûlante alors que Paris accueille, vous l'avez dit, à compter de demain, le troisième sommet de l'intelligence artificielle avec l'espoir de susciter une pluie d'investissements étrangers pour développer nos infrastructures numériques. On parle d'un objectif d'une quinzaine de milliards d'euros. La France espère ouvrir la possibilité d'une nouvelle voie de l'IA plus éthique, plus accessible et fiable, et aussi plus frugal. Le chemin sera long si l'on en croit le passionnant entretien donné au 1 Hebdo par la politiste Asma Mala. Si les Chinois, dit-elle, ont développé un outil aussi performant que DeepSeek avec 5 millions de dollars, c'est aussi à notre portée. Mmh. Elle mentionne un laboratoire de recherche en intelligence artificielle du CEA de Grenoble qui développe un modèle très proche de cette IA chinoise. Or, celui-ci n'a pas pu voir le jour. Ce n'était pas faute de main-d'œuvre qualifiée, affirme la spécialiste des enjeux géopolitiques de l'IA. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Si nous ne sommes pas à la hauteur, répond-elle, ce n'est pas la faute de l'Union européenne, mais de l'absence d'une politique industrielle et de recherche qui soutienne cette action. La souveraineté reste nationale, insiste Asma Mala. L'enjeu est de pouvoir l'imposer, car si nous ne façonnons pas, c'est dur à dire, nous-mêmes, nos outils, ce sont les outils qui nous façonneront. Et il ne restera plus, comme le craignait Paul Valéry, face à la modernité qui esclavagise, que quelques spécimens d'hommes libres.
Nous n'en sommes pas là, mais il faut s'en garder. Merci voilà. Eric Fotorino. Et tout cela à lire cette semaine dans le 1 Hebdo. De C'est la France à C'est une chanson. C'est un guitariste, Wax, que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Guitariste émérite, il est aussi compositeur, arrangeur, producteur et sera en concert vendredi et samedi aux Folies Bergères à Paris. L'occasion de jouer les titres d'Étincelle, son dernier album auquel ont collaboré de nombreux artistes dont certains viendront partager la scène avec lui. Et c'est de la chanteuse américaine Fiona Apple que Wax a souhaité me parler.
Pour moi, c'est la plus grande artiste encore en vie. Voilà, moi je suis fan de Johnny Cash, de Jimi Hendrix et de Fiona Apple. Donc il n'en reste plus qu'une. Et elle arrive à centraliser tout ce qui me touche en fait dans la musique, c'est-à-dire son engagement, son côté pas de calcul, pas de maquillage, pas de faux semblants, pas de morceaux sur lesquels elle exprime des choses qui sont superficielles. Elle est vraiment vraie et très dense. Et ça se sent dans sa musique comme dans tout ce qui l'accompagne. Et j'aime le fait qu'elle ait jamais eu besoin d'autre chose que sa musique pour faire parler d'elle. Et en plus, c'est une femme qui s'en est pris plein la gueule pour être une femme, qui dès son premier album, alors qu'elle avait 16 ans, a écrit une chanson sur le viol qu'elle a subi. Et les gens riaient pendant ses promotions quand elle était invitée sur des grands plateaux. Le monde a bien changé, j'espère, sur ce genre de questions. The early cars already are drawing deep breaths past my door. And last night's phrases sickled like a basis are still writhing on my floor. And it doesn't seem fair that your wicked words are working, holding me down. It doesn't seem right to take information given at close range for the gag and the bind and the ammunition.
Cette chanson de Fiona Apple est sortie en 2005, Frédéric. Son titre, Not About Love.
Et c'est grâce à son clip que Wax l'a découverte. Un clip que Fiona Apple a tourné avec l'acteur Zach Galifianakis.
C'était une époque où je travaillais mon instrument constamment et je regardais MTV et j'improvisais sur les chansons qui passaient à la télé. Et donc on avait MTV à la maison, j'improvisais et à un moment on tombe sur ce clip et là vraiment je vois Zach Galifianakis pour la première fois, je vois qu'il chante, je me dis mais cet homme a une voix extraordinaire. Et en fait je me fais complètement berner, je comprends à la fin du clip quand il y a le nom de la chanteuse qu'en fait c'était Fiona Apple que j'écoutais. Et je ne connaissais pas du tout cette chanson, elle venait de sortir.
C'est-à-dire que lui, dans ce clip, effectivement, il fait comme s'il chantait, voilà. C'est elle qu'on entend.
Le lip-sync vient de lui, mais elle ne joue que l'actrice dedans. Et je dis, ah putain, en plus, c'est un truc où il y a Fiona Apple dans le clip. Vraiment, je me suis fait vraiment avoir comme un bleu, mais j'ai posé ma guitare vraiment tout le long du clip, qui est, je peux le dire, mon clip préféré de tous les temps, avec cette chanson merveilleuse qui est Not About Love. Not about love.
Cette chanson, elle raconte qu'entre un homme et une femme, il y a plein de possibilités de sentiments différents. Mmh. Ça peut ne pas être de l'amour, mais y ressembler et être tout aussi riche que de l'amour.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez vrai, moi personnellement, avec la femme avec qui je vis, je ne cherche pas que de l'amour. Je cherche à ce que ce soit ma meilleure amie aussi, que ce soit mon autre, que ce soit ma conseillère, mais aussi... la personne qui va me dire que ce que je fais n'est pas bien. Effectivement, tout n'est pas que question d'amour dans une relation. Et c'est ça qui est beau.
Elle aime aussi cette chanson ?
Je sais qu'elle aime bien Fiona Apple. Et une fois, on était en Grèce ensemble, voilà. Et j'ai joué cette chanson dans la voiture. Et j'ai pleuré en l'écoutant parce que je la trouve trop belle. Et elle a pleuré d'accompagnement pour moi. Donc je pense qu'elle aime cette chanson.
Elle vous emmène où cette chanson quand vous l'entendez aujourd'hui ?
Bah déjà, elle me ramène en 2005. Hein. Elle me ramène à une époque où je pouvais passer 4 heures devant les Folies Bergères pour la voir en live. Et au moment où elle est arrivée, c'était les grandes eaux. Je pleurais parce que je la voyais, parce que je me disais c'est l'artiste que j'aime le plus. Elle m'a vraiment bouleversé.
Et vous êtes vraiment tombé en larmes quand vous l'avez vue ?
Ouais, ouais. En plus, elle est très discrète. On ne sait jamais ce qu'elle fait, ni quand elle va réapparaître, ni quand elle va disparaître. Donc elle a ce côté un peu tombé du ciel.
Not About Love, Fiona Apple. C'était donc, Frédéric, le choix du guitariste Wax.
Wax qui sera en concert vendredi et samedi aux Folies Bergères à Paris, là où il a vu Fiona Apple il y a près de 20 ans.
Retour aux sources. Merci Frédéric et à demain.